Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que les outils IA pourraient nous aider à plus de transparence et de probité pour lutter contre la corruption ? C'est la question que l'association spécialisée Anticor s'est posée et un groupe de travail a réussi à construire plusieurs outils automatisés d'analyse et de détection qui les aident dans leur mission. Ils sont avec nous pour partager ce projet. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, un petit peu technique aujourd'hui, et toujours politique.
Cause commune, 80.1 FM.
Et vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune-singulier.fm, sur notre app mobile qui est valable sur Android et iPhone, sur la bande FM à Paris, 93.1 FM, ou sur le DAB+, si vous nous écoutez au niveau national. Et bien sûr, en podcast, sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Olivier Grieco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté et de nous donner de si beaux outils. Chers auditeurs, nous n'avançons que grâce à vous et à votre grand pouvoir, celui du partage et du like. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et partageant notre émission. Nous adorons aussi vous lire dans les commentaires de Apple Podcast, de Spotify ou de YouTube. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes.
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Le nom Anticor vous dit sans doute quelque chose. Cette association fondée en 2002 s'est donnée comme mission de lutter contre la corruption et rétablir l'éthique en politique. Votée après l'affaire Cahuzac, la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit que des associations puissent porter plainte avec constitution de partie civile dans les affaires de corruption. Et bien Anticor fait partie de ces associations et dispose d'un agrément octroyé par le ministère de la Justice, renouvelé tous les 3 ans. Il permet d'exercer l'action civile dans les affaires de corruption, c'est-à-dire de représenter les citoyens qui ne peuvent pas agir en justice dans ce type d'affaires. Il se constitue partie civile et les associations permettent la saisie quasi automatique du juge d'instruction indépendant et la relance des investigations quand une enquête a été classée par le parquet. C'est donc une association importante pour la démocratie. Elle cherche à rétablir le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants. Depuis quelques années, certains membres de l'association s'intéressent aux outils de data science pour accompagner ces missions. Alors comment l'analyse des données publiques ou reconstituées peut aider à lutter contre la corruption ? Un vaste programme. Heureusement pour nous, 2 membres très actifs sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Élise Van Beneden et bonjour Julien Pérez.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Cause Commune. Parlez-moi d'IA, Élise et Julien, mais avant cela, faites ce que vous pourriez tout simplement vous présenter l'un après l'autre et nous indiquer quels sont vos rôles respectifs, passés et actuels, au sein de l'association. Peut-être en commençant par Élise.
Oui, bien sûr. Alors, Élise Van Meyden, moi je suis avocate au barreau de Paris, j'exerce en droit du travail et à côté de ça, j'ai un engagement très militant au sein d'Anticor, qui date, puisque ça fait maintenant 16 ans que je suis active dans l'association et où j'ai eu des rôles différents. J'ai été secrétaire générale adjointe, présidente, vice-présidente. Et on a développé plein de projets pendant toutes ces années, l'idée centrale étant toujours d'aider les citoyens à exiger plus de transparence, d'aider les citoyens à lutter contre la corruption.
Julien Pérez, si vous voulez bien vous présenter également.
Bonjour, donc Julien Pérez. Professeur en école d'ingénieur et directeur de recherche dans les domaines de l'IA, un domaine sur lequel je travaille depuis maintenant une 20aine d'années. Effectivement, comme disait Élise, sur la question du Data Lab, ça a été mon engagement, mon premier engagement effectivement à Anticor, à l'été 2023, à mon retour à Paris. Et effectivement, la constatation qui a été la nôtre et sur laquelle on va discuter, c'était l'opportunité que représentait désormais la maturité des outils dans différents sujets de soutien à l'action et au combat de l'association Anticor.
Si on doit d'ailleurs repréciser un peu ce qu'est Anticor aujourd'hui, pourriez-vous peut-être, Élise, nous redire rapidement comment l'association est née ? Vraiment rapidement, hein, combien il y a d'adhérents aujourd'hui ? Combien d'affaires sont en cours avec Anticor et grâce à Anticor?
Oui, alors c'est une association qui est née en 2002, qui a commencé à faire du combat judiciaire en 2009 et qui a finalement gagné avec d'autres associations, notamment Transparency International, le droit d'être un acteur judiciaire de la lutte contre la corruption. Et en 2013, ce droit-là a été reconnu par le gouvernement puisqu'un agrément a été créé et Anticor l'a eu en 2015, en 2018 et après ça s'est compliqué.
Il y a eu un épisode un peu compliqué effectivement sur l'agrément. Vous êtes sorti.
Oui, oui, c'était une sacrée tempête, mais on en est sorti pour le moment en tout cas.
Ouais.
Et donc, c'est une association qui a initialement été une association d'élus, ouais, qui s'est ouverte aux citoyens, qui aujourd'hui est plutôt une association de citoyens, même si les élus sont bienvenus chez nous, s'ils respectent nos propositions éthiques en tout cas. Et donc, une association de citoyens, aujourd'hui, il y en a plus de 10 000 adhérents à Anticor. Et on a un ancrage territorial assez fort puisque on a énormément de groupes locaux dans les départements qui eux-mêmes font des réunions, reçoivent des lanceurs d'alerte, construisent des dossiers puisque c'est l'objectif prioritaire d'Anticor, c'est son activité principale, disons peut-être 80% de son activité, et d'aller en justice. L'idée est qu'une association de citoyens peut exiger des élus qui respectent la loi, et peut exiger que la justice leur demande de rendre des comptes. Et en fait, si cette activité s'est développée, c'est parce qu'il y avait des dysfonctionnements dans le système judiciaire institutionnel français, qui est que la personne qui est censée démarrer les poursuites, qui est le procureur de la République, n'est pas tout à fait indépendant du pouvoir en France, malheureusement. Il l'est en partie, et les procureurs font de leur mieux avec le cadre institutionnel qu'ils ont. Mais force est de constater que souvent, le procureur, il est assez proche de l'exécutif local qui peut être mis en cause. Parfois, ses promotions dépendant en partie du ministère de la Justice, il peut être très frileux à aller contre des personnes qui sont proches du gouvernement, tout simplement parce qu'il risque d'avoir des répercussions sur sa carrière. Et ce procureur-là, il a aussi la capacité de classer sans suite, le fameux classement sans suite. Ce qui n'est pas une réalité chez nos voisins européens, partout, pas forcément. C'est ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que le procureur apprécie l'opportunité de poursuivre. Et en fait, la seule personne qui peut contourner une décision de classement sans suite, c'est la victime. Sauf que dans les cas de corruption, en fait, très étrangement... On est tous victimes de la corruption, c'est vraiment un constat qui est manifeste, on est évidemment tous victimes parce qu'on on a moins de services publics, parce qu'on n'accède pas à des emplois publics, parce qu'on subit des injustices, mais ça c'est un constat de fait, c'est pas un constat judiciaire, c'est-à-dire que les citoyens français ne sont pas victimes de la corruption au sens de la justice. Donc il faut une association, et il faut une association qui a un agrément. Et cet agrément, il permet de contourner la décision de classement sans suite d'un procureur pour aller chercher un juge d'instruction qui, lui, est constitutionnellement indépendant. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se bat contre l'impunité. On se bat pour que les élus qui sont accusés d'infraction à la probité rendent des comptes à la justice.
Et là, depuis la création de l'association, ça représente quel nombre de dossiers dans lesquels vous êtes engagés?
Là, actuellement, on en a 163 en cours.
En cours.
Au niveau national.
D'accord.
Je ne saurais pas vous dire combien sont archivés. Il doit y en avoir une vingtaine archivés. Peut-être pas énormément, parce que finalement, souvent, les procès politico-financiers traînent en longueur. C'est-à-dire que l'affaire Guérini a duré 13 ans, l'affaire des sondages de l'Élysée a duré encore plus, 15 ans, il me semble. Donc, on est sur des procédures extrêmement longues, parce qu'il y a des recours qui sont faits tout le temps. Ce qui est un droit pour les justiciables. On dit aux élus qui sont des justiciables comme les autres, comme les autres, ils ont le droit de faire des recours. Mais c'est vrai que bon,
ils ont
souvent ça ralentit. Voilà, bon, ils en usent, ils en abusent peut-être un petit peu, mais bon, ils ont le droit de le faire. Et donc on a peu de procès qui sont terminés, on a beaucoup qui sont en cours. Et quand je vous dis ça, ce sont droits, en fait, ce sont les procédures qui sont assumées par l'association au niveau national. Mais nous avons dans tous nos satellites départementaux des responsables de groupes locaux qui ont 4, 5, 10 dossiers. Donc on a vraiment une présence importante au niveau local, tout simplement parce que l'intensité
de ces questions de probité se manifeste.
Oui, l'intensité des répercussions, des conséquences est parfois beaucoup plus dure, beaucoup plus facile à ressentir au niveau local, et c'est vraiment un axe qu'Anticor à développer très rapidement et auquel on tient énormément, c'est d'être présent un peu partout où on peut. Donc ça veut dire que les citoyens qui ont envie de lutter contre la corruption partout en France peuvent rejoindre un groupe local, et s'il n'y en a pas, ils peuvent se proposer pour le diriger, l'animer.
C'est des échelons départementaux qui sont concernés par les comités locaux, si j'ai bien compris ?
Oui, absolument. Ce sont des groupes locaux et c'est à l'échelle départementale.
Et puis on peut également préciser que vous ne recevez aucune subvention publique, pour justement encore une fois pour garantir votre indépendance.
Oui.
Et donc vous vivez des adhésions et des dons.
Oui, absolument, des particuliers. On n'accepte pas non plus les dons des personnes morales, des entreprises. Mmh. Et en fait, ce sont les bénévoles qui sont notre force et qui sont aussi notre indépendance, puisque les bénévoles, évidemment, apportent beaucoup de richesses à l'association et lui permettent de fonctionner. Donc en fait, rejoindre Anticor, c'est aussi aider son indépendance.
Et donc les sous-groupes qui finalement constituent Anticor, vous l'avez dit, c'est les comités locaux, donc départementaux, mais c'est aussi des commissions thématique qui fonctionne à l'échelle nationale, dont le fameux Data Lab dont on peut parler. Peut-être que, du coup, Julien, vous voulez bien nous présenter le Data Lab et nous dire un peu comment il fonctionne finalement, aussi comment il a été créé, pourquoi il a été créé et comment il fonctionne aujourd'hui.
Le Data Lab est venu, si vous voulez, d'une convergence d'observations qui est, un, la nécessité de la lutte anticorruption telle qu'elle est opérée par Anticor depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, et effectivement l'avènement d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de méthodes, et plus généralement, comme je l'entendais dans le générique, de l'utilisation des méthodes d'analyse de données, qui aujourd'hui arrivent à des niveaux de maturité, qui viennent en convergence avec tout un travail législatif de mise à disposition de la donnée publique. Je pense aux lois sur la transparence, et qui sont en fait le matériel nécessaire à ce que ce type d'approche puisse exister. Et donc effectivement, à partir de juillet 2023, on a eu l'opportunité de discuter avec Élise et les premiers membres de ce qui est devenu le Data Lab, de la possibilité d'avoir des premiers sujets concrets à l'usage d'Anticor. Et pour le fonctionnement, on aura le temps d'en parler, on fonctionne effectivement exclusivement avec des bénévoles.
Et justement, donc, dans les bénévoles, peut-être, Élise, combien de personnes finalement sont concernées par le Data Lab ? C'est quoi les bénévoles, le profil des bénévoles qui viennent constituer l'équipe du Data Lab ?
Bon, en fait, le Data Lab, c'est la rencontre de la science des données et du juridique.
Oui.
Donc, on a autant besoin de bénévoles qui sont des juristes que de data scientists qui ont envie de venir nous aider. Généralement, on fait des réunions pour présenter le Data Lab périodiquement. Et on voit qui a envie, avec les compétences qu'il a, de rejoindre quel projet, combien de temps ils peuvent dédier. Parce qu'on a toujours peur de s'investir dans les associations.
Ouais.
On se dit, oh là là, je vais rapidement ne plus avoir des week-ends. Mais chacun fait ce qu'il peut avec le temps disponible qu'il a. Et au niveau des juristes, en fait, ça dépend. On va parler de nos projets. Si on travaille sur les marchés publics, évidemment, on a forcément besoin de personnes qui les connaissent bien, voire qui les pratiquent, de professionnels... professionnels des marchés publics.
Comment ils ont été, du coup, déterminés ces sujets qu'on va évoquer juste après, mais dans le détail, comment vous avez fait la liste ? Est-ce que c'est des envies des uns des autres ? Est-ce que c'est les données disponibles qui guident les choses ? Est-ce que c'est les outils ? Comment on finit par brainstormer, se dire, bon, là, il y a un truc à creuser, on aimerait bien aller faire un tour là-dessus ?
Ben, en fait, c'est déjà, la naissance du Data Lab est arrivée à un moment où on venait de perdre notre agrément en juin 2023.
Ouais.
Donc ça, c'est un message à tous ceux qui veulent nous embêter. Sachez que quand on nous embête, quand on nous enlève nos outils de lutte...
On crée encore plus de projets.
On en crée d'autres. Donc voilà, faut pas toucher à notre agrément.
D'accord,
et
c'est dit.
Le premier projet, en fait, il se base sur les marchés publics, tout simplement parce que c'est de la donnée qui est publique. Elle est forcément publique. Bon, si elle n'a pas été publiée, c'est encore un autre problème. Mais normalement, elle est publiée. Donc,
où ça
on s'est
pour,
dit.
Pour pas. Enfin, où est-ce qu'elle est publiée, cette donnée en particulier ?
Elle est publiée, par exemple, dans les DECP.
Ouais.
Dans pas mal de plateformes, comme le BOAMP.
OK. Et c'est disponible ?
Bien sûr, oui, c'est disponible. C'est le but.
D'accord.
C'est le but, c'est que ça puisse être transparent, vérifiable par tous. Donc, c'est de la donnée qui est disponible en ligne.
Et est-ce qu'elle est de bonne qualité aussi, cette donnée sur les marchés publics ? Peut-être c'est peut-être Julien qui répond à ça, pour le coup.
Alors ça, je pense que c'est un point absolument crucial, effectivement. Alors, comme le disait Élise, on a un certain nombre de formats, comme le DECP, les données essentielles de la commande publique, ou le BOAM pour ce qui est du journal officiel. On a également la plateforme qui s'appelle data.gouv.fr,
ouais.
Qui a effectivement pour but de référencer, entre autres, ce matériel-là qu'on utilise. En termes de qualité, on voit sur les années que ça s'améliore d'année en année, mais il y a encore énormément de travail à faire, à la fois sur la qualité et la disponibilité. Ça, je pense, c'était mon premier rapport d'étonnement,
ouais.
C'est de se dire si a priori quelque chose est obligatoire, alors ça va faire beaucoup rire Élise, si quelque chose est obligatoire, c'est que ça doit être là.
Ah oui.
Faut bien comprendre qu'on a des taux de disponibilité sur certaines zones de la France qui sont de moins de 30%. Donc aujourd'hui, on a un gros travail aussi de plaidoyer, et là, c'est un peu aussi pour les auditeurs, de dire est-ce que au niveau local et ensuite au niveau des communes, au niveau des départements et autres, est-ce qu'effectivement ces informations de la commande publique sont bien présentes comme elles le devraient?
Oui. Et donc, si ce n'est pas le cas?
Alors, Élise,
qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand ce n'est pas le cas? Quand on voit qu'effectivement cette donnée pour sa commune, pour son département, pour sa région, elle n'est pas disponible ou elle est mal disponible?
Bon, en fait, ça dépend un peu quelle donnée est indisponible. Si c'est par exemple un appel d'offres qui n'a pas été publié et que la publication était obligatoire, là on est de toute façon dans quelque chose qui relève d'une infraction pénale.
Ouais.
Donc on peut directement aller voir le procureur de la République.
Oui.
Mais si on se met dans une perspective qui est plus de favoriser la publication de la donnée, comme disait Julien, mais il y a du plaidoyer à faire et il est en train de le faire, lui comme d'autres personnes. Et il y a peut-être aussi des demandes de documents administratifs à faire, puisque les citoyens l'ignorent souvent, mais en fait, tous les citoyens ont le droit de faire des demandes d'accès aux documents administratifs. Et ce n'est pas forcément des demandes de communication, ça peut être des demandes de publication. Donc en fait, à terme, on pourrait, avec cette plateforme, je pense, créer automatiquement des demandes de publication et les envoyer aux collectivités qui sont manquantes. Et encore, ça, quand la donnée est manquante, c'est peut-être pas le plus grave, parce qu'il y a des données qui sont erronées.
Oui.
Et ça, c'est aussi très compliqué pour nous.
Bon, si on revient sur les marchés publics, donc on voit bien pourquoi, hein, parce qu'encore une fois, marché public, 150 milliards d'euros par an, à peu près, 8 à 10% du PIB quand même, donc c'est juste une petite paille à regarder et à observer. Et qu'est-ce que vous avez voulu faire finalement? Vous avez voulu regarder quel type de problème lié à la commande publique et au marché public?
Alors l'intérêt pour le sujet des marchés publics, c'est effectivement ça, c'est la manne financière immense. C'est un sujet un peu ardu, les marchés publics, parce que c'est très compliqué, hein, la réglementation est très compliquée. Et en fait, à Anticor, je vous disais que notre activité principale, c'est d'aller en justice, hein, de porter plainte. Et donc, on a une équipe qui étudie en permanence les alertes de corruption qu'elle reçoit. On en reçoit une vingtaine par jour. Donc on a vraiment énormément d'alertes, on a vraiment beaucoup de dossiers concrets. Et à partir de ces dossiers-là, c'était intéressant de dire « Ah bah ça, c'est quelque chose de récurrent, on pourrait l'automatiser ». Mais aussi de fournir un outil, en fait, même pour nos juristes ou pour n'importe quel autre juriste, pour les procureurs, pour les journalistes, pour qui veut. Un outil d'analyse qui est de dire à partir du moment où sur la base de ces données qui sont publiques, nous on peut...
Il y a des alertes qui remontent, quoi.
Pas trouver des infractions pénales forcément, parce qu'évidemment il faut toujours un travail de juriste derrière, mais détecter des anomalies. Et c'est ça qu'on a voulu faire, c'est ça qu'on a fait au Data Lab avec cette plateforme. Et notamment, une des premières anomalies qu'on a cherché à détecter, c'est le recours systématique au même prestataire.
Oui.
Puisqu'on est capable, avec ces données-là, de dire que telle ville, telle EPCI, telle région, pour tel code CPV, prenons la construction, ce n'est pas un hasard, sur les deux dernières années, a systématiquement, ou à hauteur de 70%, 80%, 90%, donné les marchés publics de BTP à la même entreprise ou à plusieurs entreprises qui sont dirigées par la même personne. Ça, c'est un constat qui est très, très intéressant. Parce que généralement, quand on donne toujours les marchés publics à la même personne, c'est qu'il y a un lien d'intérêt. C'est qu'on connaît le dirigeant, ou c'est qu'il y a eu des retours d'ascenseur, donc il y a beaucoup de choses à faire derrière. Hein, et parfois, cette plateforme ne peut pas connaître la vérité telle qu'on sait qu'elle est souvent cachée derrière. Il y a beaucoup même de travail journalistique, d'enquête à faire. Mais c'est déjà très intéressant. Et le deuxième point, c'était de détecter les anomalies du prix. C'est-à-dire de dire que si on a un prix qui est manifestement supérieur au marché, c'est peut-être parce que la collectivité locale, ou en tout cas son dirigeant, est en train de renvoyer l'ascenseur à une entreprise qui, par exemple, aurait financé sa campagne électorale.
Vous me parliez aussi du fait de détecter qu'un marché avait été avenanté et que du coup l'avenant portait le seuil du marché sur un seuil supérieur.
Et oui, c'est que souvent, en fait, il y a des entreprises qui remportent des appels d'offres parce qu'elles ont l'offre qui est la moins chère et qu'elles s'engagent à faire les choses de manière correcte comme les autres candidats.
Le mieux disant.
Et oui, et qu'en fait, après, il y a un avenant qui arrive assez rapidement. Donc on s'est fixé sur les 2 années qui suivent le marché public initial. Et qui n'est pas justifié par des changements de circonstances importants, mais qui vient augmenter significativement le prix du marché.
Et du coup, Julien, le data scientist, quand il est voilà, quand le juriste vient le voir en lui disant « j'aimerais bien, t'arrives à me trouver ces types de filtres et de données », est-ce que c'est simple comme exercice ? Comment vous avez envisagé l'exercice de data science sur ce sujet ?
Alors paradoxalement, sur les exemples que vient de donner Élise, qui ont effectivement été les premiers exemples sur lesquels on a travaillé, au regard des formats de données qu'impose la législation, c'est relativement simple. Ce sont des tests tout à fait déterministes, de seuil, de présence. Donc en réalité, comme le disait Élise, c'est déjà... possiblement extrêmement impactant, mais sur un plan purement technique, c'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose de fondamental dans la mesure où ça permet à des gens comme moi, qui sont pas du tout effectivement de ces sujets-là, de s'appréhender, d'appréhender ces sujets, ces données et l'intérêt que ça peut avoir. Mais paradoxalement, sur un plan purement,
technique.
D'analyse de données, c'est vraiment des choses extrêmement déterministes. Par contre, effectivement, on se heurte, comme je le disais tout à l'heure, au fait que les données, effectivement, sont simplement pas toujours présentes, ou pas complètes, ou erronées, avec parfois des prix absolument incroyables. Et les gens seraient vraiment surpris, même déjà, effectivement, ça c'est quelque chose aussi qu'on veut développer avec la plateforme quand on l'aura mise à disposition du public dans un schéma qu'il nous faut encore définir, de réaliser simplement, encore une fois, sur sa propre collectivité, de comment ces informations sont remontées comme elles devraient l'être, encore une fois, aux plateformes identifiées, comme ici, depuis fin 2022, maintenant c'est depuis fin 2022, c'est effectivement data.gouv.fr.
Et comment vous faites ? Vous batchez la donnée, donc vous la récupérez, je sais pas, tous les 3 mois, vous faites tourner toutes les détections sur la globalité des données. Comment on gère justement cette façon d'envisager la donnée et l'analyse de données ?
En production, on la récupère 2 fois par semaine.
D'accord.
Parce qu'on a en fait une mise à jour qui est faite par la DGFiP,
ouais.
2 fois par semaine, sachant que, sans rentrer dans les détails trop techniques en réalité, le fait de dire qu'effectivement les données doivent être présentes sur data.gouv.fr reste une obligation, je dirais, extrêmement lâche. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas à un point parfaitement unique dans ce répertoire de données. Il nous faut quand même travailler pour aller au maximum aller chercher toutes les données qui sont présentes, ce qui est déjà surprenant. Ensuite, si on continue sur ce sujet-là, une autre difficulté qu'on va avoir ensuite après, c'est que on va avoir différents types de données sur lesquelles on veut récupérer et qui ne sont, de manière surprenante, pas liées entre elles. Par exemple, si vous prenez par exemple l'appel d'offres et ce qu'on appelle le donné essentiel de la commande publique, c'est-à-dire la signification de l'attribution du marché, bah aujourd'hui, effectivement, même si la loi nous dit qu'on devrait avoir effectivement un identifiant qui lie les deux, aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Et comment vous faites cette liaison, du coup, cette curation de données ?
Alors, pour le moment, on l'a fait de manière probabiliste. Pour le coup, on n'est plus dans une approche déterministe, on est une approche probabiliste où on va utiliser certaines informations de localité, d'intitulé, ouais, pour faire ce qu'on appelle l'appareillement d'un graphe biparti, n'est-ce pas, pour arriver à faire ça. Mais par contre, on résout de manière probabiliste quelque chose qui devrait être totalement déterministe.
Bon, donc ça va être mis entre les mains des responsables, en tout cas des entités plutôt locales, pour qu'elles regardent aussi à leur niveau comment
c'est
ça va se passer.
C'est déjà le cas, la plateforme, voilà, en période de test actuelle.
Et donc ce qu'on entend, c'est que vous vous interrogez sur la manière de l'ouvrir finalement plus au grand public, parce que c'est quand même un outil puissant qui nécessite d'être bien compris aussi. Et donc c'est aussi là un stade supplémentaire qui arrivera bientôt. Autre projet il y a l'agent conversationnel. Donc là, pour le coup, on utilise les fonctionnalités d'un chat GPT, enfin d'un LLM en tout cas, d'un chat GPT-like, pour finalement avoir une discussion sur une situation et vérifier que cette situation, elle n'a pas un caractère pénal potentiel, notamment sur la prise illégale d'intérêt ou sur le conflit d'intérêt. Alors, comment ça marche? Je commence à discuter avec l'outil et on lui dit ouais, j'ai l'impression quand même que cet élu, là, il y a ça, il y a ci. Et il commence à discuter avec vous pour voir s'il peut qualifier un peu les choses.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut s'adresser à l'agent conversationnel, lui dire moi, dans ma ville, le maire, il a embauché. Sa nièce à la mairie pour refaire le site internet. Il n'y a toujours pas de site internet. Tout le monde sait qu'elle n'en fout pas une. Est-ce que...
ça ressemble à quoi?
Est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai le droit d'aller prévenir le procureur de la République? Et en fait, cette machine, pour le moment, on est en train de lui apprendre le cheminement juridique à suivre. C'est-à-dire, dans quel cas est-ce qu'on est, quelle commune c'est, combien il y a d'habitants, ok, telles règles sont applicables. Est-ce qu'on est dans les exceptions prévues par la loi? Non, d'accord, on continue. Est-ce que la personne, le citoyen en question, sait si le maire a participé? Ah, il sait pas. Ok, on va faire une demande de document administratif pour avoir le compte rendu de la réunion pour vérifier si le maire a participé à sélectionner sa nièce ou si il a pas voté, s'il a quitté la salle, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ce que font nos juristes. Mais si on le fait, c'est pas parce que nos juristes en ont marre de le faire, c'est parce que c'est vraiment le cas du quotidien.
Oui.
Il y en a tellement.
Et ça démultiplie du coup les moyens de mettre cet outil-là à disposition des adhérents et des...
Absolument. Alors ça démultiplie, oui, et en même temps, on ne pourrait pas, en tout cas, gérer tous les cas qui arrivent chaque année. C'est impossible. Vraiment, le cas de l'élu local qui essaye de favoriser un membre de sa famille et qui trouve ça totalement normal, mais en fait, il y en a partout. Et d'ailleurs, même les citoyens, parfois, ont du mal avec ce type de cas. Il y a plein de gens qui disent bah moi aussi à sa place si j'avais le pouvoir je le ferais. donc c'est oui, c'est quand même probablement l'infraction qui est la plus courante. Du coup face à un phénomène systémique, on s'est dit qu'il fallait qu'on arme l'association pour pouvoir gérer ça à plus grande échelle. Après là, je vous parle de quelque chose qui est pour aller vers une qualification pénale pour le coup, mais ça peut aussi être un outil qui est utilisé en amont pour éviter de faire une erreur, hein, totalement. Ça peut être utilisé par les élus en disant qu'est-ce que je dois faire dans telle situation.
Bah tiens, on parle des élus justement. Et vous avez édité un certain nombre de préconisations, en tout cas d'éléments de notions à suivre pour les futurs candidats aux élections municipales. Les principales recommandations que vous leur faites, c'est quoi exactement?
Cette année, on a fait un choix qui est inédit pour l'association, qui est en fait de reprendre la charte de l'élu local, parce que dans le code général des collectivités territoriales. Et on a décidé de la préciser, voire d'aller plus loin. Et par exemple, le premier article, c'est « L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ». Et là, nous, on a spécifié que déjà, l'élu local a un casier judiciaire vierge, puisque c'est pas une obligation. Aujourd'hui, en France, c'est assez extraordinaire, puisqu'il y a beaucoup de métiers pour lesquels il faut un casier judiciaire vierge. Tous les fonctionnaires doivent avoir un casier judiciaire vierge, mais pas les élus. Le deuxième aspect, c'est de dire que l'élu se retire de ses fonctions s'il a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, ce qui n'est pas toujours le cas, ou alors ça donne lieu à des combats judiciaires pas possibles. L'élu protège les lanceurs d'alerte, c'est extrêmement important dans la société, hein, parce que si on ne protège pas les lanceurs d'alerte, et ben, tous ceux qui ont des dysfonctionnements à dénoncer vont se taire. Et les limitations à deux mandats exécutifs successifs dans les communes de plus de 3500 habitants, parce qu'on sait bien que dans les petites communes, il n'y a pas toujours full de candidats.
Bah merci beaucoup, Julien, merci beaucoup, Élise. C'est l'heure de conclure, ça va très rapidement, cette émission. Merci d'être venu partager avec nous ces projets IA au sens large d'Anticor. On rappelle que vous avez besoin de bénévoles juristes, de bénévoles data scientists, qu'éventuellement on peut faire des dons à Anticor si ces valeurs correspondent à vos valeurs, n'hésitez pas. Il y a un site internet pour ça. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci à vous, chers auditeurs. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. On se dit à bientôt.